Chapitre 67. 22h53. Je regarde la lune. Vue de la fenêtre du donjon du moulin des Chenevières, elle paraît immense, presque à portée de main. Rassurez-vous, je ne suis pas dingue. Ce n'est pas une illusion d'optique. Ils en ont parlé à France Bleu Haute-Normandie et même à la télévision régionale. Ils ont expliqué qu'aujourd'hui, la pleine lune est la plus grande de l'année. À son périgée, comme ils ont dit. C'est-à-dire que cette nuit, d'après ce que j'ai compris, la lune se rapproche au plus près de la Terre. J'ai retenu de ce qu'ils ont expliqué que la lune ne suit pas un cercle autour de la Terre, mais une ellipse. Il y a donc un jour où la pleine lune est la plus éloignée de la Terre, et un jour où elle est la plus proche. C'est ce soir. D'après eux, à l'œil nu, vu de la Terre, la lune devient plus grosse. C'est ce qu'ils ont affirmé juste après la météo, au moment de l'éphéméride. Le périgée, une fois par an. La clarté nocturne baigne les toits de Giverny dans une atmosphère étrange. Un artiste motivé pourrait presque sortir son chevalet et peindre toute la nuit sans lumière artificielle. Combien sommes-nous, en ce même instant, à regarder le même clair de lune, à avoir écouté la radio, regardé la télévision et à avoir obéi. Un spectacle à ne pas rater, à ce qu'ils ont dit. Des milliers, des dizaines de milliers, sûrement. Décidément, je suis bien nostalgique aujourd'hui. Après mon pèlerinage au musée de Vernon, voilà que je passe ma nuit sous ma fenêtre. Je ne vais pas tenir longtemps ainsi, à ce rythme. Cela dit, je n'en ai pas l'intention. Croyez-moi, c'est un véritable privilège que de pouvoir connaître la date de la fin et de pouvoir ainsi savourer les dernières heures, la dernière nuit, la dernière lune. Demain, tout sera terminé. C'est décidé. Il me reste juste à choisir le moyen. Poison, arme blanche, arme à feu, noyade, asphyxie. Ce ne sont pas les possibilités qui me manquent. Ni le courage, ni la détermination, ni la motivation. J'observe encore le village qui s'endort. Les réverbères et les dernières fenêtres éclairées du village dans la nuit pâle me rappellent les fleurs jaunes de mes nymphéas noirs, comme autant de phares fragiles perdus dans un océan de ténèbres. Les flics ont échoué et n'auront rien compris. Tant pis pour eux. Demain soir, tout se terminera par un dernier cadavre, comme une parenthèse définitivement refermée. Point final. C'est la première fois que Fanette contemple une lune aussi grosse. On dirait une planète ou une sorte de soucoupe volante qui va se poser là-bas, dans les arbres, sur le coteau. Sa maîtresse a bien eu raison de leur dire de veiller tard. Elle leur a expliqué l'ellipse, le périgée. Elle a dessiné des schémas compliqués au tableau avec des flèches et des chiffres. Fanette n'a pas l'heure, mais il lui semble qu'il doit être au moins 23 heures. Vincent est rentré chez lui depuis, disons, une heure, elle dirait. J'ai cru qu'il allait passer la nuit sous ma fenêtre à m'écouter, à ne pas vouloir me lâcher la main. Enfin, il est parti. Ouf. Fanette voulait être seule. Seule avec cette lune géante comme une grande sœur. Une grande sœur qui habite loin, qui va l'inviter chez elle. Ce soir, Fanette a terminé son tableau. D'habitude, elle n'aime pas jouer les vaniteuses. Elle n'y croit pas beaucoup, au fond, quand tout le monde lui dit que ce qu'elle dessine est génial. Mais là, oui, elle peut bien le dire à la lune. Elle est fière des couleurs qu'elle a posées sur la toile. de ce mouvement de l'eau du ruisseau qui traverse son tableau, de ces lignes de fuite qui partent dans tous les sens. Elle avait tout dans la tête, depuis longtemps, mais jamais elle n'aurait cru pouvoir mettre ça en peinture. Elle a caché le tableau sous le lavoir, Paul ira le chercher demain, le donnera à la maîtresse. Paul, je peux lui faire confiance. Seulement à Paul, surtout pas aux autres. Camille le prétentieux, Marie la rapporteuse, Vincent. Oh, Vincent, le petit chien collant. Surtout pas à maman non plus. Maman me surveille ces temps-ci. Elle m'emmène à l'école le matin et me dépose devant la grille avant de monter jusqu'à la villa des Parisiens. Pareil à midi, comme si elle m'espionnait. Je trouve ça bizarre des fois, comme si maman avait peur que je raconte à tout le monde mon histoire. James, disparu, mort, tué dans le champ. Comme si elle avait peur qu'on prenne sa fille pour une folle. James. Fanette tend la main. Elle a l'impression qu'en se penchant un peu plus sur le rebord de sa fenêtre, elle pourrait toucher les cratères de la lune, passer ses doigts sur les crevasses. James, est-ce que je l'ai inventé? Est-ce que je n'ai pas juste trouvé dans le champ quelques pinceaux oubliés par un peintre, quelques gouttes de peinture sur la berge? Mon imagination a fait le reste. Maman me le dit toujours. Je vis dans un monde imaginaire. J'invente les choses, je déforme la réalité, comme je voudrais qu'elle soit. Maintenant, plus j'y pense, plus il me semble que James n'a jamais existé. Je l'ai inventé parce que j'avais besoin de lui. J'avais besoin de quelqu'un pour me dire que j'étais douée en peinture, que je devais continuer, que j'avais du génie, que je devais penser à moi et travailler encore mes tableaux, être égoïste. Maman ne me dit jamais ça. James m'a dit tout ce qu'un papa aurait dû me dire, tout ce que j'avais envie que mon papa me dise. Un papa artiste, un papa peintre, un papa fier de moi. Un papa qui un jour, au bout du monde, lira mon nom dans le coin d'un tableau exposé dans la plus extraordinaire des galeries et qui se dira tout simplement « Je la reconnais, c'est ma fille. Ma petite fille, la plus douée de toutes. » Fanette observe les façades des maisons sombres. Non, non, non. Mon papa n'est pas un type du village chez qui ma mère fait des ménages. Un gros, moche, vieux qui pue et qui sue, c'est impossible. Et puis je m'en fiche. Je n'ai pas de papa. J'ai inventé James à la place. Grâce à lui, j'ai peint mon tableau, mes nymphéas. Demain, ils partent pour le concours. C'est ma bouteille à ma mère. Demain. Fanette sourit. Avec cette lune immense, c'est peut-être un autre bon présage. Demain, c'est mon anniversaire. Sous la lune, la cour de l'école de Giverny prend une teinte argentée. Une lune démesurée. Stéphanie a essayé d'expliquer ce phénomène de périgée de l'ellipse de la lune aux enfants de sa classe à l'aide de quelques schémas simples. Elle leur a recommandé de veiller un peu plus tard que d'habitude, de profiter du spectacle. Elle a tout écrit au tableau. Une lune 14% plus grosse et 30% plus lumineuse. La lune a la même forme circulaire que la lucarne de leur chambre mansardée. Comme si un morceau de fenêtre s'était détaché et envolé dans le ciel. La rue Blanche Hochedémonet est déserte. Les feuilles des tilleuls de la place de la mairie dansent doucement sous le vent. Une pluie d'argent semble être tombée sur le village. Jacques est allongé à côté, dans le lit. Sans même avoir besoin de se retourner, Stéphanie devine qu'il ne dort pas. Elle devine qu'il la regarde, qu'il ne dira rien, qu'il respecte son silence. L'intimité entre elle et Jacques lui est devenue de plus en plus insupportable. Jacques n'a modifié aucune de ses habitudes. Ils continuent de dormir ensemble, nus, presque l'un contre l'autre. Même si Jacques n'a pas cherché à la toucher, n'a pas cherché à la reconquérir. Physiquement, du moins. Ils ont discuté des heures, hier, calmement. Jacques dit qu'il a compris, qu'il va essayer de changer. Changer quoi ? Stéphanie ne lui reproche rien. ou simplement peut-être de ne pas être un autre. Jacques dit qu'il deviendra un autre. On ne devient pas un autre. Ces discussions ne mènent à rien, Stéphanie le sait bien. Sa décision est prise. Elle le quitte, elle part. Jacques est un homme équilibré. Il pense sûrement que patienter est la bonne méthode pour faire douter Stéphanie. Laisser passer l'orage, attendre, rester là, un parapluie à la main. Au cas où, prêt à tendre ce grand parapluie pour deux dès que Stéphanie reviendra. Il se trompe. Stéphanie observe longtemps la cour de cette école où elle enseigne depuis des années. Ses marelles tracées dans le goudron, cette cage à écureuils. Dans sa tête, bourdonnent les cris des enfants à la récréation. Stéphanie a donné rendez-vous à Lorenz demain après-midi. Pas au village, bien entendu. Pas devant l'école, pas au ruisseau. Plus loin, dans un lieu plus discret. C'est elle qui a eu l'idée. L'île aux orties, le fameux champ à la confluence de l'Epte et de la Seine que Claude Monet avait acheté, où il posait ses toiles, où il amarrait son atelier bateau. C'est un joli lieu isolé, à un peu plus d'un kilomètre de Giverny. Plus elle y pense, et plus elle est persuadée que c'est la bonne idée, l'île aux orties. Lorenz saura apprécier. Lorenz a un instinct étonnant pour tout ce qui concerne l'art. Dans la maison de Monet, n'a-t-il pas tout de suite senti que le tableau de Renoir, la jeune fille au chapeau blanc, n'était pas une reproduction? Même si sa raison le poussait à ne pas l'admettre, Lorenz pressentait qu'il s'agissait d'un authentique chef-d'œuvre. Comme les dizaines d'autres oubliés dans la maison de Monet. Renoir, Pissarro, Sisley, Boudin, des nymphéas inconnus aussi. Mon Dieu, s'ils avaient le temps, s'ils étaient libres, Stéphanie aimerait tant les montrer à Lorenz, partager avec lui une telle émotion. Jacques a éteint la lumière et s'est tourné sur le côté, comme s'il dormait. L'éclat de lune donne à la chambre des allures de grotte féerique. Les yeux de Stéphanie se posent sur la table de chevet, sur le livre posé. Il n'a pas bougé. Aurélien. Louis Aragon. Immanquablement, cette phrase revient la hanter. Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure. Ce message découvert sur la carte d'anniversaire trouvée dans la poche de Jérôme Morval. Le crime de rêver. Comme si cette phrase avait été écrite pour elle. Le crime de rêver. Tous ceux qui n'ont pas lu les vers suivants, tous ceux qui ne connaissent pas la suite de ce long poème d'Aragon, nymphée, se trompent. Non, bien entendu, Aragon ne condamne pas les rêves. Quel contresens! C'est l'inverse. C'est bien évidemment l'idée inverse qu'exprime le poète. Elle récite du bout des lèvres ces vers qu'elle fait apprendre tous les ans aux enfants du village. Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure. Si je rêve, c'est bien de ce qu'on m'interdit. Je plaiderai coupable. Il me plaît d'avoir tort, aux yeux de la raison, le rêve est un bandit. Stéphanie répète en silence les quatre vers de la strophe, avec la ferveur d'une indécente prière profane. Si je rêve, c'est bien de ce qu'on m'interdit. Oui, le rêve est hors la loi. Oui, il plaît à Stéphanie d'être une femme cruelle. Non, elle n'a aucun remords. Oui, aux yeux de la raison, son rêve est criminel. Que demain Lorenz Sérénac la prenne dans ses bras. Qu'il fasse l'amour dans l'île aux orties et qu'il l'emmène. Demain.